Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie condamne fermement le massacre de l'école Al-Tabien. Le ministère de l'Environnement et des Forêts prépare des normes de calcul de réduction des émissions pour les forêts de plantation industrielle. Le gouvernement affirme que la fête de fleurs pourrait attirer les touristes. Chers amis, nous présentons maintenant le journal incomplet. L'Indonésie condamne fermement le massacre de plus de 100 Palestiniens à l'école de Al-Tabien à Gaza par Israël le 10 août 2024. Via le réseau social X, le ministère indonésien des Affaires étrangères a également exhorté samedi le Conseil de sécurité de l'ONU à mener immédiatement une enquête approfondie sur l'attaque. L'Indonésie appelle également le monde international à s'unir pour mettre fin aux crimes contre l'humanité et au génocide commis par Israël. L'Indonésie exhorte également Israël à assumer la responsabilité de tous ces crimes et exhorte à mettre fin à toutes les formes d'impunité. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a préparé des normes pour calculer les réductions d'émissions dû au développement des forêts de plantation industrielle dans le but de soutenir le rôle de HTI dans l'atténuation du changement climatique. Le chef de l'Agence de normalisation des instruments environnementaux de forestiers, M. Ari Sudianto, lors d'une discussion au festival Lake Do à Jakarta samedi, a déclaré que l'intégration du développement des plantations forestières dans les stratégies d'atténuation du changement climatique est une opportunité stratégique pour soutenir la réalisation des objectifs de réduction des émissions. Comme l'a rapporté Antara, Ari a déclaré que concernant les deux potentiels des forêts de plantation industrielle ou HTI en tant que source d'émissions de gaz à effet de serre et en tant que source d'absorption des émissions, la stratégie à mettre en œuvre et de réduire les émissions et augmenter l'absorption. Avec l'approche de la loi sur la création d'emplois en matière de licence d'exploitation forestière à travers plusieurs entreprises, ces deux potentiels devraient être l'une des stratégies de licence d'exploitation forestière pour les réaliser. L'agent au marketing du ministère du Tourisme et de l'Économie Créative, Madame Nima de Ayu Martini, a déclaré samedi que le Festival International des Fleurs de Tomohon ou Festival des Fleurs dans la ville de Tomohon, Sulawesi du Nord, pourrait être vendu aux touristes. Cité par Antara dans son discours, Nima de Ayu a déclaré que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère du Tourisme et de l'Économie Créative, avez-vous le fort potentiel offert par la ville de Tomohon et la province de Sulawesi du Nord, notamment dans le secteur du tourisme? Elle espère également qu'en ouvrant l'accès à Tomohon, ce festival pourra obtenir de l'appréciation des touristes. Vous écoutez le journal de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre des Transports Budi Karya Sumadi soutient les efforts des acteurs de l'industrie maritime pour promouvoir le tourisme maritime en Indonésie afin d'améliorer l'économie du pays. Il a exprimé cela lorsqu'il était conférencier à Tokyo de l'Association nationale des armateurs indonésiens du Yacht Festival 2024 à Benoa, Bali. Rapporté par Antara Samdi, il a déclaré que l'Association nationale des armateurs indonésiens du Yacht Festival était le bon moment pour promouvoir la beauté naturelle de l'Indonésie, ainsi que pour présenter des bateaux touristiques au grand public. Budi a ajouté que le festival est aussi un événement approprié pour rassembler les acteurs du secteur du transport maritime, tant national et étranger, pour interagir et partager leur expérience. Le ministre des Transports a également expliqué que le gouvernement s'engage à continuer de soutenir le progrès des entreprises de transport maritime d'une perspective politique. Dans ce contexte, le gouvernement offre une commodité opérationnelle aux navires touristiques pour naviguer dans les eaux indonésiennes. Le ministère de la Communication et de l'Informatique a déclaré que le développement de la capitale de l'archipel ou IKN était l'une des fondations posées par le gouvernement vers une Indonésie plus avancée. C'était dimanche par Antara à Jakarta, le directeur général de l'information et de la communication publique du ministère de la communication et de l'informatique, M. Usman Kansong, a déclaré que le développement de IKN était l'une des étapes choisies dans le cadre d'un effort visant à égaliser le développement et l'économie en Indonésie. Usman a déclaré qu'il y avait 4 objectifs pour déplacer la capitale indonésienne vers l'archipel, à savoir créer un nouveau centre de croissance économique, créer une ville intelligente, former une culture de travail et une bureaucratie plus efficace et devenir un symbole de la fierté indonésienne. Le président de la Cour suprême du Bangladesh, Abidul Hassan, a présenté sa démission au ministère de la Justice sous la pression des étudiants qui ont lancé des manifestations. Comme l'a rapporté Antara à Jakarta samedi, Hassan a pris cette décision après que l'un des dirigeants de la protestation a lancé un ultimatum demandant à Hassan de démissionner. Les manifestations ont commencé à travers le Bangladesh après que le mouvement étudiant contre la discrimination a annoncé dimanche qu'il ne coopérerait avec les autorités. Les affrontements entre étudiants, policiers et partisans du gouvernement ont généré des émeutes. La première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a ensuite démissionné au milieu des émeutes. Le banquier et économiste qui a reçu le prix Nobel de la paix, Muhammad Yunus, jeudi 8 août, a été nommé premier ministre par intérim du Bangladesh. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Oh.
merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, on voici la rubrique La mise au point de la semaine, intitulée Le président rappelle à son équipe les risques économiques mondiaux. Le président Joko Widodo a présidé lundi 5 août 2024 une réunion limitée avec un certain nombre de ministres du cabinet indonésien avancé au bureau du président, le palais présidentiel de Jakarta. Au cours de la réunion, le président et les ministres ont discuté du plan de travail du gouvernement, ou RKP, de la note financière et du projet de budget des recettes et dépenses de l'État, ou RAPBN, pour 2025. Le président a ouvert la réunion en soulignant l'importance d'accommoder les programmes du président élu dans le projet de budget des recettes et dépenses de l'État 2025. Il a également souligné la vigilance face aux risques de ralentissement économique mondial, notamment concernant les politiques de taux d'intérêt et les tensions géopolitiques qui peuvent potentiellement déclencher une crise alimentaire et une hausse des prix du pétrole. En dehors de cela, le président a également souligné l'importance d'optimiser les mesures visant à augmenter l'objectif des recettes de l'État. Il a souligné la facilité d'investissement et la facilité d'exportation des produits liés à l'exportation comme la clé pour atteindre cet objectif. Le président Joko Widodo a également souligné que le projet de budget des recettes et dépenses de l'État 2025 doit se concentrer sur les grandes priorités. Il ne souhaite pas que RAPBN couvre trop de programmes. Avec la fin de cette réunion limitée, le plan de travail du gouvernement, la note financière et le projet du budget de recettes et dépenses de l'État 2025 peuvent être immédiatement préparés et mis en œuvre efficacement afin d'atteindre l'objectif de développement national. Pendant ce temps, le président élu Prabowo Subianto et le vice-président élu Gibran Rakabuming Raka se sont mis d'accord sur diverses situations macroéconomiques qui affecteront la mise en œuvre du budget de recettes et des dépenses de l'État 2025. La ministre des Finances, Mme Sri Mulyani Indrawati, a présidé assister à une réunion limitée présidée par le président Joko Widodo, a déclaré que le projet de budget de recettes et dépenses de l'État 2025 avait été préparé par le gouvernement du président Joko Widodo, le vice-président Ma'ruf Amin, ainsi que les ministres du cabinet indonésien avancé. La ministre Sri Mulyani a déclaré que le gouvernement avait commencé à préparer le projet de budget des recettes et dépenses de l'État 2025 avec diverses hypothèses macroéconomiques, tant du côté mondial que national. Les hypothèses pour la préparation du RAPBN 2025, a déclaré le ministre des Finances Sri Mulyani, ont été rapportés et ont reçu l'approbation du président et du vice-président élu. Un certain nombre de situations économiques influenceront le projet du budget des recettes et des dépenses de l'État 2025, à savoir la croissance économique, l'inflation, les taux d'intérêt sur les titres publics, le taux d'échange de la roupie, les prix du pétrole, l'augmentation du pétrole et du gaz au cours des 10 dernières années. La ministre Sri Mulyani a ajouté qu'actuellement, les ministres finalisent les instructions du président Joko Widodo et du président élu pour la préparation du projet de budget de recettes et dépenses de l'État 2025. Chers amis, c'était la rubrique La mise au point de la semaine de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Je commence par les événements du 11 août 1952. Hussein bin Talal a été couronné roi de Jordanie. Hussein bin Talal a été couronné roi de Jordanie alors qu'il n'avait pas encore 17 ans. Il a succédé à son père Talal bin Abdullah, monté sur le trône un an plus tôt. Citant King Hussein Puanggov, Hussein a été intronisé roi du royaume Hashemite de Jordanie le 11 août 1952.
Le conseil de tutelle a été créé jusqu'à ce que le roi Hussein monte officiellement sur le trône le 2 mai 1953, date à laquelle il a assumé ses pouvoirs constitutionnels après avoir atteint l'âge de 18 ans selon le calendrier islamique. Le roi Hussein a dirigé la Jordanie jusqu'à la fin de sa vie, le 7 février 1999. Avec un mandat de 46 ans, le roi Hussein a été l'un des chefs d'État ayant la plus longue période de leadership dans le monde. Le 11 août 1982, l'explosion d'une bombe sur un avion de la Pan American World Airways. Une bombe a explosé sur un avion de la Pan American World Airways en route entre le Japon et Hawaï. L'avion, également appelé Clipper Ocean Rover, a subi des dommages mineurs, mais le pilote a été craint d'effectuer un atterrissage d'urgence. Il réussit à atterrir à Honolulu. L'accident a tué un passager et blessé 16 autres. Mohamed Rachid, un citoyen jordanien associé à l'organisation du 15 mai, a été accusé d'être l'auteur de l'attaque. Le 11 août 2012, le tremblement de terre dans la province Azerbaïdjan, en Iran. Le tremblement de terre de 2012 en Azerbaïdjan oriental, également connu sous le nom de tremblement de terre Dahar, s'est produit le 11 août 2012 près des villes Dahar et Varzakan dans la province Azerbaïdjan oriental en Iran. Au moins 306 personnes ont été tuées et plus de 3000 blessés, principalement dans les zones rurales et montagneuses au nord-est de Tabriz. Les secousses ont été ressenties en Arménie et en Azerbaïdjan, mais aucun dégât majeur n'a été signalé. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Seandainya ku katakan yang sesungguhnya tentang perasaanku padamu selama ini. Seandainya ku bisa memutar kembali waktu yang telah pergi dariku, saat kau ada di sini denganku. Sebenarnya hatiku selalu mencintaimu, hanya saja ku tak pernah mengatakan cintaku menggenggam tulus hatimu. Namun kini kau katakan cinta sudah terlambat. Seharusnya ku tak biarkan kau menang dariku yang tersimpan terlalu lama. Dan seharusnya ku pahami isi hatimu yang tulus menyayangi diriku sebelum Sebenarnya hatiku selalu
Voice of Indonesia.
Les auditeurs de Voice of Indonesia, mon Indonésie d'aujourd'hui, dont le titre est Le cadeau d'or aux Jeux Olympiques de Paris pour la fête de l'indépendance de l'Indonésie. Le 79e anniversaire de l'indépendance indonésienne, le 17 août 2024, a reçu un cadeau spécial des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec la victoire de médaille d'or dans les sports d'escalade au nom de Frédéric Leonardo et d'haltérophilie au nom de Rizky Junian Shah. La chose la plus phénoménale de cette médaille d'or a été la gravure d'un record olympique au nom de Rizky Junian Shah dans la classe 73 pour la classe Clean and Jerk avec une levée totale de 199 kg. Cela signifie qu'outre le nom de l'athlète, le nom de l'Indonésie est gravé dans le livre du plus grand événement sportif du monde. Ce n'est pas en vain que la chef de mission du contingent indonésien, Anindya Bakri, a emmené la famille de l'athlète Rizky Junian Shah à Paris pour stimuler leur enthousiasme pour la compétition jusqu'à ce qu'elle obtienne un joli résultat avec une médaille d'or. Pendant ce temps, le président Joko Widodo a apprécié le succès de l'Indonésie qui a remporté deux médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en escalade et en haltérophilie. Selon le président, il a confirmé que le gouvernement accorderait des primes aux athlètes médaillés aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. En haltérophilie, il y a toujours eu une tradition de remporter des médailles, même si ce ne sont pas des médailles d'or depuis les Jeux Olympiques de Sydney de 2000, où l'athlète féminine Lisa Rombewas a remporté une médaille d'argent. Depuis lors, presque toutes les épreuves olympiques, l'haltérophilie ont toujours présenté des médailles. Pendant ce temps, l'escalade en tant que nouveau sport récemment intégré aux Jeux Olympiques a donné à l'Indonésie une médaille d'or. L'haltérophilie et l'escalade ont changé la carte de médaille d'or remportée par l'Indonésie dans les événements sportifs les plus prestigieux du monde, généralement attribué au badminton. Pendant ce temps, le badminton aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a réussi à faire don d'une médaille de bronze à la joueuse de badminton Gregoria Mariska Tunjung. Aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août, l'Indonésie enverra 29 athlètes concourir dans 12 sports. Pendant ce temps, aux Jeux Olympiques de 2024, des compétitions auront lieu dans 45 sports. Jusqu'à ce que ce texte soit écrit, l'obtention de médailles a permis à l'Indonésie de se hisser à la 28e position dans la liste des pays recevant des médailles aux Jeux Olympiques de 2024, avec un record de 2 médailles d'or et une de bronze. C'est tout mon Indonésie.
Sadar kalau kini kita sudah semakin menjauh. Sempat aku berpikir ini kau yang menginginkannya lepas dari pelukku. Ingin ku terlambat dan sesali. Maaf.
Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici Magazine Culturel. Cette fois, nous allons vous présenter le riz panggal de Kebumen. L'Indonésie, avec ses nombreuses provinces, offre bien sûr une variété de délices culinaires. Comme le nasi liwet de Solo, le sego megono de Pekalongan, Kebumen, situé dans la province centrale de Java, propose également un plat de riz typique, à savoir le nasi panggal ou le riz panggal, qui constitue souvent le choix de la population locale au petit déjeuner. Le nasi panggal signifie le riz arrondi. Le nasi panggal est un aliment typique de la région de Kebumen dans le centre de Java. Le nom de nasi panggal signifie prendre du riz façonné en boule de la taille d'une balle de ping-pong. Le nasi panggal signifie le riz arrondi. Il est généralement servi dans une feuille de bananier en forme de pincuk. D'habitude, les assiettes prennent 8 jusqu'à 15 ronds de riz. Le nasi panggal est placé dans un panier disposé en couches. Chaque couche de nasi panggal sera séparée par une feuille de bananier. Le nasi panggal est servi avec des légumes et des plats accompagnement. Ce légume est un lodeh de lait de coco avec de simples épices savoureuses mélangées à du gori
ou le jeune jacquier, de feuilles de manioc, de tempeh, de tofu et de melinjo. Les plats d'accompagnement du nasi penggal sont la peau de bœuf et les abats tels que les tripes, iso, le kikil, le cœur, les reins, les poumons et le tempeh mandoan. La façon de servir de riz penggal est également unique car elle utilise des feuilles de bananier appelées pincuk comme base et un suru ou une cuillère qui est également fabriquée à partir de feuilles de bananier parce qu'on pense que les feuilles de bananier fournissent un arôme distinctif. D'habitude, ce plat ne peut être trouvé que le matin entre 5h jusqu'à 9h. Et il est difficile à trouver l'après-midi et le soir. Un pincuk nasi penggal complet avec légumes, accompagnement et thé chaud est généralement vendu environ 15 000 de rupiah. Bien qu'il n'existe aucune littérature expliquant ses origines, il est rapporté que le nasi penggal a été créé en 1948 lorsque les habitants de Kebumen ont fourni de la nourriture pour la lutte des syndicats étudiants et des élèves des internats islamiques. Le nasi penggal a été créé pour faciliter la distribution de nourriture pendant la lutte de l'époque. De sorte que le nasi penggal est devenu un symbole de la lutte des héros de Kebumen. Chers amis, pour ceux d'entre vous qui aiment le tourisme culinaire, et si vous êtes en Indonésie, notamment à Kebumen, essayez de goûter le nasi penggal qui est souvent utilisé comme petit déjeuner par la population locale. Chers amis, c'était un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques. Anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Of Indonesia.
Chers amis, maintenant nous allons vous présenter la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée Mélodie de l'indépendance. Afin de célébrer le 79e anniversaire de l'indépendance de la République d'Indonésie, le ministère du Tourisme et de l'Économie créative organise un concours régional de création de chansons dans le cadre d'une activation annuelle intitulée Mélodie de l'indépendance. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, M. Sandiaga Uno, a déclaré que Mélodie de l'indépendance est une activité qui invite le public à animer la commémoration du 79e anniversaire de la République d'Indonésie en réarrangeant les chansons régionales. Sandiaga Uno espère que cette activité pourra encourager le développement du sous-secteur de la musique en Indonésie. Différent de l'année dernière, avec le concours de la création de chansons nationales, Mélodie Indépendance de cette année concourt pour la création de chansons régionales avec 9 options de chansons, à savoir Cublak Cublak Suang, Cici Periuk, Gemo Famire, Rasa Sayangi, Apuse, Kicir Kicir, Kampung Lunjauh Dimato, Angin Mamiri, et Manuk Dadali. Vous pouvez créer vos propres arrangements de chansons avec votre propre style et arrangement, à la fois individuellement ou en groupe. Les personnes souhaitent participer à Mélodie de l'indépendance 2024 peuvent soumettre leur travail du 3 au 25 août 2024. L'activité de Mélodie Indépendance 2024 est assez spéciale car elle collabore avec JKT48, un groupe idol indonésien, et participe à l'animation du 79e jour de l'indépendance indonésienne avec plusieurs exemples de vidéos. Avec la collaboration JKT48, on espère que cette activité pourra encourager la créativité de la jeune génération. Les gagnants de ce concours recevront un prix en espèces totalement 17 millions de rupiah. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Wajahmu cerah membuatku tersenyum senang. Indah dunia, tentu saja kita pernah mengalami perbedaan. Kita lalui, tapi aku merasa jatuh terlalu dalam cintamu. Ku tak akan berubah, ku tak ingin kau pergi selamanya. Ku pergi selamanya. Ku kan setia menjagamu bersama dirimu sampai nanti akan selalu
Voice of Indonesia.
bergincu, kedip mata merayu jelas coba mengganggu. Tawarnya terpasang bukan tanpa tujuan, satu korban terjerat itulah harapan. Wangi parfum semerbak membius pusat saraf, hadirkan bayangan untuk lepas keresahan. Bergejolak, semua coba berontak, ketika tak kuasa langsung ku lari mengelak.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.